étaient secrètement liés. Car, après tout, la victime était un artiste, écrivain et peintre. Tout absorbé par le domaine du mythe, du rêve, de la terreur et de la superstition. Il recherchait avec avidité les lieux et manifestations à caractère bizarre ou spectral. Son séjour précédent dans notre cité, une visite rendue à un vieillard excentrique aussi versé que lui dans l'occulte et le savoir interdit, s'était soldée par la mort et les flammes, et ce doit être un instinct morbide qui l'a fait quitter sa demeure du Milwaukee pour revenir ici. Même s'il affirme le contraire dans son journal, il a fort bien pu entendre parler de vieilles histoires. Sa mort a peut-être tué dans l'œuf quelques stupéfiantes mystifications à visée littéraire. Néanmoins, parmi ceux qui ont examiné ces éléments et les ont mis en relation, plusieurs persistent à avancer des théories moins rationnelles et moins ordinaires. Ils tentent à prendre au sérieux l'essentiel du journal de Blake et rappellent avec insistance certains faits tels que l'indubitable authenticité du registre de la vieille église, l'existence avérée de la secte, impopulaire et hérétique, de la sagesse des étoiles jusqu'en 1877, la disparition attestée, en 1893, d'un journaliste d'investigation du nom d'Edwin M. Lillibridge, et, par-dessus tout, l'expression de peur monstrueuse qui tordait les traits du jeune écrivain au moment de sa mort. C'est l'un des partisans de la théorie fantastique qui, poussé jusqu'au fanatisme, a jeté dans la baie la pierre aux angles insolites et la boîte en métal curieusement ouvragée découverte dans la flèche sombre et aveugle de l'ancien bâtiment, et non dans le clocher, où le journal de Blake affirme qu'elle se trouvait à l'origine. Bien que fortement critiqué en public comme en privé, cet homme, un médecin réputé avec un goût prononcé pour le folklore bizarre, a assuré avoir débarrassé notre monde d'un objet trop dangereux pour y demeurer. Entre ces deux camps, le lecteur devra lui-même trancher. Les journaux ont adopté l'approche sceptique pour exposer les faits concrets, laissant à d'autres le soin de brosser le tableau tel que Robert Blake l'appréhendait, croyait l'appréhender, ou prétendait l'appréhender. À présent, en étudiant de près ce journal, sans hâte et sans passion, tâchons de dérouler la sombre chaîne d'événements selon le point de vue de leur acteur principal. Le jeune Blake revint à Providence au cours de l'hiver 1934-1935 et s'installa au dernier étage d'une vénérable demeure située au milieu d'un terrain gazonné donnant sur College Street, au sommet de la...